De quelle couleur était le cheval blanc d'Henri IV ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison pour Clic-Clac-Topette, le programme qui vous propose d'explorer et de découvrir, ou de redécouvrir, l'histoire en Anjou. Aujourd'hui, pour cette spéciale de 30 minutes, nous allons tester des auditeurs et même tenter de les piéger à propos de sujets historiques qui ont pu être traités pendant l'année. Afin de ne pas les mettre en échec, je les ai un petit peu prévenus par avance du sujet qui serait abordé pour chacun d'eux. Mais, en contrepartie, je vais les mettre en compétition pour gagner un t-shirt qu'une jeune marque angevine produit. Et nous allons bientôt accueillir Lucie qui a créé cette marque. C'est parti, donc maintenant sans plus tarder nous accueillons Lucie. Lucie qui est donc... ça va Lucie ?
Oui, très bien, merci.
Ouais, nickel, il fait beau hein ?
Ouais, merveilleux.
Ouais, merveilleux. Un magnifique temps pour tester nos cirés jaunes, trop bien. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, tu vas nous parler de ta marque de vêtements qui s'appelle le Bistrot Chauvin avec des produits de qualité, n'est-ce pas ?
Ah oui. 100% top qualité.
100% top qualité, comment ça?
Parce que c'est des t-shirts en coton bio.
Ouais.
100% coton bio.
Waouh.
Donc c'est de la bonne qualité. Tu peux le laver autant que tu veux, ça ne va pas rétrécir.
Ouais.
Et
Donc on peut le salir, c'est bon, on le met à la machine, le produit reste intact.
Intact.
Pendant 5, 10, 15, 20 ans.
On espère.
Ouais. Et dessus, en plus, il y a un joli visuel. Il y a des jolis visuels qui sont faits made in Anjou, ces visuels.
Tout à fait. Donc, la première collection, c'est essentiellement du coup des fraises en patois, angevin.
Ouais.
Et la deuxième collection, du coup, c'est des visuels faits en partenariat avec des artistes locaux.
Waouh.
Et des fraises aussi en patois.
Ouais, ok. Donc grâce à toi, ben, un des auditeurs qui va participer au quiz va pouvoir repartir avec un joli t-shirt angevin, entre guillemets.
Tout à fait.
Waouh ! Eh ben merci beaucoup Lucie. On se retrouve bientôt j'espère. Et puis ben en attendant, je te dis topette.
Topette.
Salut. Donc pour le premier sujet, j'accueille le monsieur Art et Histoire des Pays de la Loire. Il est la fraîcheur 2.0 du goût et de l'histoire de notre région. Un garçon intéressant et passionnant dont le nom ou le visage ne vous sont peut-être pas inconnus. Il partage également de superbes photos sur son compte Instagram, comme celle de sa dernière visite à la Salette en Vendée que j'ai bien appréciée. Mesdames et messieurs, William Chevillon. C'est Chevillon, hein ?
Oui, c'est ça, Chevillon. Bonjour. Ah,
ça va ?
Oui, toi ?
Ouais, super, nickel. Alors, au moment où j'ai commencé à discuter avec toi, c'était pendant le confinement sur Instagram. Mmh. Et tu démarrais justement la réalisation d'un nouveau concept de vidéo. Est-ce que déjà tu peux te présenter, puis en dire un petit peu plus sur ce concept de vidéo qui s'appelle Connaissez-vous ?
Alors moi je suis médiateur culturel, on va dire, dans le Grand Ouest. Enfin, c'est
ouais.
La Vendée, les Pays de Loire, le Val de Loire, la Bretagne, etc.
Ouais.
C'est un parcours en fait, autodidacte essentiellement. Et au cœur de ce parcours, j'ai lancé un petit projet vidéo, des petites pastilles culturelles de 2-3 minutes où je présente des éléments historiques, architecturaux, de proximité, donc c'est en Vendée, en Maine-et-Loire, bientôt en Bretagne,
partout.
Quelques petites surprises à venir, voilà, partout.
Voilà, court, efficace, on s'ennuie pas, on apprend des choses, et puis c'est ludique un peu.
Bah, c'est ludique, l'idée c'est pas que les gens perdent le fil, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, et puis de montrer des lieux qui sont pas forcément très connus ou très visités. Il y a beaucoup d'Angevins, par exemple, qui n'ont jamais visité le palais du Tau, le palais épiscopal à
Exactement.
Côté de la cathédrale. Et donc là, c'est l'occasion aussi de leur faire découvrir et de leur donner envie peut-être un jour d'aller visiter.
Donc ça s'adresse aux locaux, à ceux qui sont de passage dans la région, et puis ça s'adresse un peu à tout le monde en fait, à tout type de public.
Oui, finalement, faire comprendre que le patrimoine en France, c'est pas seulement Versailles. Il y a plein de patrimoines de proximité qui vaut le coup également. Je pense que beaucoup de gens en ont conscience, mais c'est toujours bien quand on est sur un territoire de mesurer ce qu'il y a sur le territoire dans lequel on se situe.
Exactement, voilà, c'est ça. Donc sur YouTube, c'est William Chevillon, hein, tout simplement.
c'est ça, oui.
Ok. Alors, William, je t'ai proposé de te questionner sur la roche de Mur. Est-ce que tu as révisé?
Ouais, j'ai un petit peu révisé. Mais je connaissais déjà un petit peu le lieu, mais pas tant que ça.
Bon, ça marche. Eh bien, sans plus tarder, on commence par la première question. Oui. Là-bas, il y a une colonne commémorative avec une représentation de Marianne dessus. Oui. La question, c'est de savoir si elle fait face à Angers ou si elle fait dos à Angers.
Ah, punaise.
Allez,
dans le doute, on va dire qu'elle fait face à Angers.
Elle fait face à Angers. Eh ben non, elle fait dos à Angers parce qu'en fait, elle fait face à la Vendée militaire. C'est la République, ouais. C'est une allégorie. C'est
qui s'oppose à la Vendée, d'accord.
Voilà. Bon, c'est la question piège, hein, clairement. Si,
ça, c'est vraiment la question piège.
Là, c'est piéger un Vendéen sur la guerre de Vendée, c'est sympa. Bah, deuxième question pour te rattraper, peut-être. Comment s'appelait le bataillon républicain qui était en poste à la Roche de Mur le jour où les Vendéens sont arrivés pour se battre? Ça, tu sais.
Bah non.
Tu
bah
sais.
Non, je le sais pas.
Ah non.
Mais non, mais je peux te faire le contexte avec la bataille de Villiers gagnée par les Vendéens contre,
oui,
les Républicains. Enfin, toute cette mise en œuvre,
mais
finalement.
Oui. C'est le bataillon des Lombards.
Oui.
Oui.
Mais c'est vrai que j'ai pas le nom du bataillon, mais voilà, tout le contexte historique, je vois à peu près, je le cite.
Bon, pas de panique, t'es le premier candidat, donc pour l'instant, t'es forcément celui qui va faire le meilleur score.
Bah voyons.
Donc, troisième et dernière question. Vrai ou faux, à ton avis, il y a une rue des Ponts-de-Cé, donc la ville qui est à côté, hein, qui porte le nom de ce bataillon?
Je dirais oui.
Eh ben oui, c'est ça, c'est vrai, t'as la rue des Lombards, tout simplement, au Ponts-de-Cé. Merci de ta participation, William.
C'est moi qui te remercie.
J'enregistre ton score.
Ouais, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir en tout cas.
Ça marche. Allez, topette.
Topette.
Ciao. Pour en apprendre un peu plus à propos de l'histoire de la Roche de Mur, j'ai donc demandé à Kylian Jonnet quelques précisions.
Je suis étudiant en première année d'histoire à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Je travaille sur le sujet des guerres de Vendée depuis maintenant à peu près un peu plus de 4 ans. Et je tiens un site internet, donc Les Sentiers de la Mémoire.
Donc, le 26 juillet 1793, voit l'écrasement total d'un bataillon de républicains par les royalistes. Que s'est-il passé?
Ce 26 juillet 1793, c'est une défaite importante pour les armées de la République, puisqu'elles sont défaites par environ 6000 Vendéens. Ils avaient pour charge, avec le commandant Bourgeois, qui a été désigné par le général Duhou, de surveiller toute l'avancée des Vendéens de Beaulieu vers Angers. Ils ont été contraints de fuir, complètement incapables de combattre, et une partie s'est jetée du haut de la falaise pour atterrir à 51 mètres plus bas dans le Louet.
Nous avons donc un monument qui commémore une défaite républicaine, ce qui peut sembler étrange, mais ce n'est pas tout, puisqu'il annonce 600 morts, alors que les rapports officiels de l'époque n'en recensaient que 88. Kylian ?
Ah, du coup, ce monument a été financé par ce qu'ils ont appelé à l'époque une souscription patriotique. Et cette souscription a eu aussi l'aval de la Commune de Paris, qui a donné du coup une somme d'argent. Le monument a été inauguré par le maire d'Angers, républicain, le 27 septembre 1889. Nous sommes pendant la Troisième République, qui est proclamée en 1871. Et à ce moment-là, disons que le Parlement est encore un peu divisé sur la question politique de la France, puisqu'on retrouve des républicains, des anarchistes, qui commencent à arriver à cette époque, des royalistes. Ce monument-là, et tout ce qui peut dégager, reste une volonté de propagande pour asseoir l'autorité de la Troisième République.
Merci beaucoup, Kylian Jonnet, pour ces précieuses informations. Je rappelle que tu tiens un joli site internet qui recense les lieux de mémoire de cet horrible conflit civil qui a déchiré notre beau département en 1793. Pour le deuxième sujet, j'ai le plaisir de recevoir, par téléphone, hein, un Instagrammeur bien connu en Anjou qui réalise comme personne de très beaux clichés du château de Beaugé. D'ailleurs, c'est mon avis personnel. Et qui maîtrise comme personne non plus cette ligne d'horizon, tu sais, Samuel, cette ligne que t'arrives à. Des jolies photos que t'arrives avec l'horizon penché. C'est quoi ton secret?
Eh bien, j'ai pas vraiment de secret, c'est l'instinct, mon secret.
Eh ben, t'as un très bel instinct à ce niveau-là. C'est super.
Merci.
Grâce à toi, d'ailleurs, j'ai pu rencontrer le chargé du patrimoine de Beaugé, qu'on va entendre juste après. Je t'en remercie.
Oui. Et avec plaisir.
C'est super sympa. Et d'ailleurs, tu le connais parce que depuis peu, tu as une nouvelle fonction à la mairie de Beaugé.
Exactement. Je suis adjoint au maire en charge de la communication.
Sympa, ça te plaît?
Ouais. C'est très intéressant et des débuts vraiment sympas.
Est-ce que tu es prêt? On va te questionner sur ta ville.
Vas-y.
Ok, et bah c'est parti. Première question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le vieil Beaugé, c'est Beaugé, mais en plus vieux?
C'est faux.
C'est faux? Tu es sûr?
Non.
Tu as demandé à Johan Olivier avant?
Non, j'ai pas demandé avant, non.
Eh bien justement, en fait, c'est vrai, enfin vieil Beaugé, parce que c'est Beaugé avant la création de Beaugé à l'emplacement actuel.
Voilà.
C'est justement...
C'est nul, hein, parce qu'en plus, je suis originaire du vieil Beaugé.
Oh là 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 là, c'est presque une honte, là.
Exactement.
C'est presque une... Alors, deuxième question, peut-être pour te rattraper. À ton avis, en quelle année a été terminé le château du roi René par René? En 1409, en 1480, en 1465 ou alors en 1789? À ton avis?
Je dirais en 1465.
Eh ben oui, c'est exactement ça. Puisque les deux premières dates, en fait, c'est les dates de naissance.
Okay. Exactement.
Bon, et bah, troisième question. Combien de clochers tors, par construction, hein, pas vraiment des clochers qui ont été construits pour être tordus, y a-t-il dans le Beaugeois?
Beaugeais en Anjou, il y en a trois.
Et dans le département, il y en a combien? C'est ma vraie question.
Dans le département?
Il y en a 17, 7, 3 ou 9?
J'aurais dit 9.
9? Eh ben, je crois qu'il y en a que 7, en fait.
Et voilà.
Il y en a que 7. Il y en a aussi qui sont tordus, en fait, naturellement. La flèche a vrillé.
La vieille Beaugé, il est très beau.
Oui, il est très beau. Et en plus, il a l'avantage, il est tort par construction. Et il est vrillé,
ouais,
en plus.
Exactement. Voilà.
Bon, ben, pour tous ceux qui ont envie de découvrir les belles photos de Samuel sur le clocher tort de vieille Beaugé. Donc, ton Instagram, c'est quoi? On peut le donner?
Ouais, vas-y.
Et donc, c'est Sam Dorian, je crois.
C'est ça, Sam Dorian.
Ouais, et t'as un deuxième compte qui s'appelle Be Crazy, Be Happy and Be Yourself.
Exactement aussi, oui.
Ouais, donc ça, c'est des jolis triptyques de personnes que tu prends en photo.
C'est ça.
Dans trois états différents, donc c'est sympa. Moi, j'aime bien ce petit concept.
Bah, merci beaucoup.
Bon, bah écoute, Samuel, je te dis topette.
Ouais, à bientôt.
À Beaugé, j'ai donc pu échanger avec Johan Olivier grâce à Samuel, le chargé du patrimoine de la ville et des alentours, qui m'a gentiment ouvert les portes du château et de l'hôtel-dieu. C'est lui qui m'a expliqué comment le château du roi René avait vu le jour.
Le château du roi René, alors, il a été construit par René d'Anjou au milieu du XVe siècle. Très peu de modifications aujourd'hui, tout du moins sur la partie extérieure. Dans la première moitié du XVe siècle, il y a beaucoup d'incursions anglaises, on est en pleine guerre de Cent Ans, et donc les Anglais stationnent ou passent dans la région. Et Yolande d'Aragon aurait fait incendier ce petit palais comtal, cette place, donc pour éviter effectivement que les Anglais ne s'y installent, hein, la politique de la terre brûlée. Et lorsque René d'Anjou va hériter du duché, il va donc hériter de Beaugé, de la seigneurie de Beaugé, et d'une ruine. Par conséquent, il va raser les dernières fondations et construire le beau château qu'on peut voir aujourd'hui.
Le château de Beaugé, c'est la partie émergée d'un patrimoine exceptionnel qui reste à découvrir, mais il y a d'autres choses à découvrir.
Alors sur Beaugé, c'est assez riche du point de vue historique et patrimonial, encore assez bien conservé. On a notamment l'autre grand bâtiment qui est aussi ouvert, c'est l'Hôtel Dieu, l'ancien hôpital, avec la pharmacie qui est une véritable curiosité. Vous avez à quelques encablures du château aussi la vraie croix d'Anjou, une relique, un des plus grands fragments de la croix du Christ, hein, qui a été ornée justement par le grand-père du roi René, Louis Ier d'Anjou.
Et aussi, donc, un ensemble de clochers un peu tordus dans les villages du Beaugeois.
Les clochers tors, alors ce sont des clochers à la flèche vrillée. Et la particularité, c'est que dans le Beaugeois, on a plusieurs de ces clochers, une forte concentration, hein. Alors, il y a plusieurs hypothèses, assez compliquées, parce que ça n'a pas été fait à une même période. On a 2 à 300 ans d'écart, parfois, dans la construction, donc on ne peut pas penser à un groupe de compagnons qui était sur le secteur. C'est certainement une commande. Autre hypothèse, c'est que aussi on avait une certaine richesse dans le Beaugeois, donc les fabriques des églises étaient quand même assez riches. Une petite largesse peut-être de certains donateurs sur les comptes de fabrique. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment d'explication et on cultive le mystère.
Merci Johan Olivier, chargé du patrimoine de Beaugé, qui m'a également indiqué que la scénographie du château du roi René allait être entièrement remise au goût du jour à partir de 2021. Et croyez-moi, de belles choses arrivent. pour le troisième sujet, j'ai demandé à un professionnel de la radio de bien vouloir participer. Mais...
Oui, alors heureusement que tu as dit professionnel de la radio et pas de l'histoire, hein, parce que là, c'est pas gagné. Hein.
Ouais, tu penses que ça va être compliqué ?
Je pense que ça va être compliqué par rapport aux autres qui se sont très bien débrouillés. Moi, ça va être compliqué.
Bon, en tout cas, Bruno, t'as plein d'autres talents, puisque t'es un peu un homme à tout faire. T'es un photographe, un animateur d'exception, t'es un orateur hors pair un peu, non ?
Oui, t'as quelque chose à me demander ou...
Eh ben, écoute, si j'arrive à te piéger, franchement, je suis très content.
Je pense que tu vas l'être.
Alors, donc, toi, Bruno, c'est l'histoire de Beaufort, hein, je t'en avais parlé, je crois. Je sais même plus.
Oui.
Tu m'as dit que t'étais de Beaufort, enfin que ta famille était
oui,
de Beaufort.
Bah, oui, j'ai ma famille à Beaufort, enfin maintenant, est-ce que l'histoire de Beaufort, je ne sais pas, vas-y.
Ah, eh ben on va voir, c'est parti. Première question, vrai ou faux, les premiers habitants de la ville vivaient plus en avant dans la vallée, vers la Loire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
Quand tu dis avant, c'était quelle époque hein ?
Eh ben avant que... Oui, c'est une très bonne question d'ailleurs ça. C'était avant le Moyen-Âge, on va dire.
Ah, avant le Moyen-Âge.
Avant Foulque Trois Néra.
Donc, plus proche de la Loire, alors.
Eh ben oui, ils étaient plus proches de la Loire. Tu connais Notre-Dame-du-Lac, Avrier ? Il y a une petite chapelle.
D'accord, alors je ne connais pas la chapelle, mais je connais Notre-Dame-du-Lac, effectivement. Il y a une chapelle qui...
Eh ben en fait, à Notre-Dame-du-Lac, il y a une maison, et cette maison-là, elle est construite sur les ruines de la toute première chapelle qu'il y avait bien avant le fort. Deuxième question, combien de mètres fait la tour de l'église ? Tu connais l'église de Beaufort ?
Oui.
Ouais, alors est-ce qu'elle fait 70 mètres ? 50 mètres ? 35 mètres ou 15 mètres ?
Bon, 15 mètres, non.
Non.
Moi, je dirais 50. Elle est grande quand même. Hein.
Oh là là, mais dis donc, Bruno, tu es très fort,
moi,
c'est ça ? C'est ça. Elle fait.
C'est
alors, j'ai mis 50 mètres pour être approximatif. Je crois qu'elle fait 47 ou 48 mètres, précisément.
D'accord.
Voilà. Du coup, troisième question. Il y a un carrefour Jean Chardavoine à Beaufort-en-Vallée, près de l'hôtel, le dernier hôtel de Beaufort d'ailleurs, sur la route de Brion. A ton avis, qui était Jean Chardavoine ? Le secrétaire de Louis XIV ? Un parolier de la Renaissance ? L'inventeur d'une machine à récupérer l'avoine ? Ou alors le directeur de la manufacture à voile de Beaufort ?
Jean Chardavoine, oui, non, à voile, non. Le 2, c'est quoi déjà ?
C'est un parolier de la Renaissance.
Ouais, moi je dirais plutôt ça.
Oh, eh, bravo. Alors là, bravo, champion. On va penser que je t'ai balancé les réponses avant.
Donc là, non, je te jure, je ne savais pas. Hein.
Eh ben là, tu
après,
fais...
c'est par déduction. Hein. À partir du moment où c'est un jeu de mots, c'était trop gros. Louis XIV, on ne joue pas trop. Mais donc, il ne me restait plus que ça.
Bah écoute, bravo. 3 sur 3. Franchement, là, c'est imperfect. T'es le premier à faire ça.
Extraordinaire.
Donc, attention.
Ah, ben, voilà.
Théoriquement, t'es vainqueur. Théoriquement. Mais, dans pas longtemps, nous allons recevoir Cisco. Et si Cisco fait 3 sur 3 aussi, là, je suis bien embêté, je vais devoir vous tirer au sort. Merci, Bruno.
Écoutez ça.
Ouais, ça marche. Bon, bah, je te rappelle si jamais t'as gagné.
Eh ben d'accord, très bien. À bientôt, et puis bonne fin d'émission.
Merci, Topette. Le gros de ce que j'ai appris de l'histoire à Beaufort, je le dois au blog de Jean-Marie Schio, un Beaufortais exilé à Paris pour son activité professionnelle et qui a réalisé un incroyable et rare travail d'essais et d'articles sur sa ville natale. Chose qu'il était nécessaire de faire pour préserver son patrimoine, au moins dans les livres. Et j'ai eu l'immense privilège de pouvoir le rencontrer pour me dévoiler l'histoire de cette invisible manufacture royale de toile à voile, qui n'a laissé que de très rares vestiges dans la ville. Jean-Marie Schio.
Alors, la manufacture royale de toile à voile a été installée à Beaufort à partir de l'année 1750, par Pierre Deshaies, industriel saumurois, sur les lieux de production du chanvre, mais aussi où il y avait une forte population de tisserands. Il en reste assez peu de choses, parce que cette industrie a disparu de Beaufort vers 1850.
Évidemment, il a aussi pu m'en dire plus sur qui était cette Jeanne de Laval qui trône à 12 mètres de haut, au milieu de la place, qui porte son nom.
Alors Jeanne de Laval est la deuxième femme de René d'Anjou. Elle a beaucoup défendu les habitants de la vallée, ce qui a laissé des souvenirs très importants et ce qui a aussi créé une certaine richesse postérieure pour la vallée, puisque ces terrains qui sont restés des terrains communaux ont pu être vendus par les communes. Ils ont été vendus à un bon prix et les communes ont eu un certain... à partir de là, une trésorerie suffisante pour aller construire des immeubles importants comme les nouvelles halles à Beaufort, par exemple.
Et enfin, Jean-Marie Schio m'a expliqué pourquoi le château de Beaufort était aujourd'hui en ruine.
Le château de Beaufort a évidemment donné son nom à la ville. Donc le château tel qu'on le voit actuellement, la construction a commencé en 1342 et elle a commencé par Guillaume Roger qui s'est vu remettre ça par le roi de France. Sans savoir beaucoup de détails, le roi René a amélioré ce château, mais là les choses sont discutées et en 1730 et quelques, les rois de France ont autorisé la destruction, ont autorisé les habitants à détruire le château. Les pierres ont été vendues par les maçons de l'époque.
J'incite vivement tous les Beaufortais ou Angevins, curieux de leur histoire, à aller faire un petit tour sur le blog de Jean-Marie Schio, ou même à découvrir ses essais en livre qui ne manqueront pas de vous instruire. Pour le troisième et dernier sujet, c'est le quatrième sujet, c'est Cisco qui va s'y coller. Et Cisco, c'est un jeune homme remarquable, qui maîtrise le son et l'image avec une efficacité diabolique et qui possède des compétences de montage qui font du bien à la qualité d'un projet audiovisuel. N'est-ce pas, Cisco ?
Salut Pierre-Benoît !
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, on peut se tutoyer ?
Bah évidemment, on peut se tutoyer.
Ah, je suis heureux.
Simple.
Et tu travailles sur quoi en ce moment, Cisco ?
Eh ben, je travaille sur des projets vidéo.
En réalité, la qualité, je t'ai demandé d'en apporter un petit peu sur un projet qu'on fait tous les deux, hein, c'est ça ? Sur une
oui,
vidéo ?
Oui, c'est peut-être ça le sous-entendu que j'essayais de glisser, peut-être.
Ah ben oui, mais les auditeurs ne savent pas, mon cher Cisco.
Indice ? Alors, si on dit le mot balade, ça marche ?
Ouh, balade, ça me rappelle un truc, Saint-Florent-le-Vieil.
Ah, c'est marrant, ça, dis donc. Oui, ah, ça me rappelle une vidéo qui est sortie sur ta chaîne il y a quelques mois de cela, avant le grand confinement, bien sûr.
On va revenir au quiz. L'auditeur précédent a fait un score incroyable de 3 réponses, de 3 bonnes réponses sur 3 questions posées. Et oui.
C'est fort, c'est fort. Donc ça va être compliqué de faire mieux, quoi.
Toi, l'explorateur, le vadrouilleur, je t'emmène à Angers découvrir les vestiges d'une histoire presque inconnue. En tout cas, que toi, tu ne connais pas. Est-ce que tu
es... pas trop, hein. Tu sais, moi, j'ai beaucoup bougé, mais c'est vrai que la ville d'Angers, je connais pas tant que ça, finalement.
Bon, est-ce que tu es prêt,
Cisco ? Oui, j'ai mon buzzer juste devant moi, je suis prêt à buzzer.
Ça marche. Bon, avant de te poser des questions, je vais quand même te dire où est-ce qu'on va, puisque quand on passe la Loire au Pont de C, hein, sur le viaduc de l'autoroute A87, on peut apercevoir dans la Loire des ruines d'un pont, tu sais, en plein milieu de l'eau, du fleuve.
Oui, je vois ce que c'est, oui, tout à fait. Alors, par contre, le nom du pont.
Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est la première question. Comment s'appelait ce pont sur la Loire ?
Eh bah voilà, exactement, mais c'est marrant parce que je le sentais pas du tout venir.
Mais pas de panique,
bien.
Pas de panique.
Alors si je dis le pont des ponts de C, ça ne marche pas, j'imagine.
Non, alors je te propose quatre propositions. Premièrement, le pont de C.
Oui.
Deuxièmement, le pont girl. Troisièmement, le pont Saint-Maurice.
Oui.
Ou quatrièmement, le pont ferroviaire.
C'est vrai qu'effectivement, en même temps, le pont girl, ça me parle pas trop.
Ouais.
Le pont de C, oui, c'est, ça marche.
Non.
Ah, ça aurait été la troisième.
Mais oui, c'est la troisième. Le pont
mince,
Saint-Maurice.
Ah, c'est dommage.
Mais oui, on est
Là, j'aurais dû prendre le 50-50.
Mais oui, t'aurais dû prendre le 50-50. Mais c'est pas grave, t'as d'autres questions pour te rattraper. Tu connais le général de Gaulle ?
Oui, bah, on a déjeuné ensemble la semaine dernière.
Et bah voilà, alors, est-ce qu'il t'a raconté, enfin, est-ce qu'il aurait pu te raconter, en tout cas, qu'il était passé à pied sur ce pont lors de la libération des ponts de C en 44. Vrai ?
C'est pas vrai.
Ou faux ? Ben je te demande, je te pose la question, c'est vrai
ou
c'est faux ?
Ah oui, d'accord, ok. C'était quel jour à peu près ? Parce que c'est un mec qui est quand même beaucoup occupé.
Ben je sais plus, la libération des ponts de C, c'était...
Ah, t'as pas de date ?
Ben si, il y a deux dates en fait. Il y a aux alentours du 12 août et aux alentours du 29 août 1944.
D'accord, je crois que le 12 août, il avait un concours de pétanque.
Oui.
Donc semble pas qu'il soit disponible ce jour-là.
Avec Churchill.
Après, peut-être qu'il avait... Enfin, en général, au mois de septembre, t'es plus dispo. Donc moi, ça me paraît être une info qu'il aurait pu effectuer, donc je vais dire oui.
Malheureusement, ce n'est pas vrai.
Eh bah parfait.
Ce n'est pas vrai. Ça aurait été une
impeccable.
Info extraordinaire, mais non, ce n'est pas vrai du tout. De Gaulle est venu à Angers, oui, mais il n'est pas
d'accord.
Venu au pont de C. Et encore moins sur un pont ferroviaire, monsieur.
Donc peut-être que moi, il m'a raconté une anecdote comme quoi il était passé, mais qu'on n'était pas au courant, tu vois.
Peut-être, voilà. Peut-être aussi, mais je serais ravi que tu les partages avec nous. D'ailleurs, en termes d'informations, potentiel autre scoop, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que ce pont, qu'on appelle pont Saint-Maurice, qui servait à faire passer le train au-dessus de la Loire. Est-ce que c'est vrai que ce pont a fait la une d'un magazine américain pendant la Deuxième Guerre mondiale?
Ça serait beaucoup trop gros pour être faux.
Ce serait trop gros pour être vrai. Eh bien oui, c'est vrai, bravo!
Eh bien voilà, le petit point, le meilleur pour la fin, évidemment.
Et donc tu as 1 sur 3, c'est génial, oui, c'est vrai.
Eh mais c'est génial, mais c'est parfait, 1 sur 3.
C'est parfait, donc, c'est parfait.
Très bien, ça me laisse une marge de progression énorme.
Ah bah là, oui, tu peux progresser.
Et je vais pouvoir justement me documenter énormément en suivant la chaîne Clic-Clac Topette.
Exactement, génial. Et puis en attendant de faire une vidéo Cisco sur ce pont, il y a déjà un auteur qui s'appelle Fabrice Rabarin, qui a écrit à propos de la catastrophe des ponts de C de 1907, où un train, en venant sur le pont, est tombé dans la Loire.
Ça, c'est vrai. La réponse est oui.
Bon, on écoute ça?
D'accord, vas-y, on écoute.
Allez, je te dis topette maintenant.
Topette.
Ciao. Et oui, il existe bel et bien un livre qui relate avec précision et illustration cette fameuse catastrophe des ponts de C du 4 août 1907. J'ai pu dialoguer avec son auteur, Fabrice Rabarin.
C'est un train qui assurait à l'époque une ligne entre Angers et Poitiers, qui un dimanche, donc avec de nombreux promeneurs et de nombreuses familles à bord, est malheureusement tombé dans la Loire par un effondrement du pont, du tablier du pont. Qui s'est dérobé sous le train et pour lequel la locomotive et un wagon sont tombés d'une hauteur d'environ une dizaine de mètres. Et les chiffres concordent pour à peu près 27 morts et disparus dans cette catastrophe.
Comment a réagi la population face à l'événement?
Les médias étaient attirés, les badauds sont venus, et comme à notre époque, le pouvoir public, politique a réagi, avec un ministre des Transports qui se déplace sur le lieu très rapidement et qui, là aussi, avec le deuxième média de l'époque, qui était les cartes postales, parce qu'on écrivait beaucoup, j'ai recensé plus d'une quarantaine de cartes postales différentes.
Est-ce que l'on connaît les causes du sinistre?
Il semblerait que cet accident soit un défaut d'entretien du pont, une vétusté du pont, avec une augmentation surtout de la capacité des différents convois ferroviaires. Et ce pont a été construit 40 ans avant. Et là également, les progrès mécaniques ont fait que les convois étaient beaucoup plus lourds, beaucoup plus rapides.
L'accident a fait la une des grands quotidiens de l'époque pendant plusieurs jours. Comment expliquer qu'aujourd'hui, rien ne permette d'entretenir la mémoire de cet événement?
7 ans après commençait la Grande Guerre. Après la Grande Guerre, effectivement, les catastrophes passaient évidemment inaperçues, vu l'immense catastrophe qu'avait causée ce premier conflit.
La catastrophe des ponts de C aux éditions du Petit Pavé, ça se lit très bien et c'est richement documenté, illustré par de nombreuses cartes postales qui permettent vraiment de se rendre compte de l'accident. Et donc, sans plus attendre, voici le grand vainqueur de ce quiz qui n'est autre que Bruno. Alors, on va essayer de l'appeler, Bruno, je sais
oui.
pas. Ah, Bruno, ça va?
Ça va.
Oui, ça va pas être très long, c'est juste pour t'annoncer cette merveilleuse nouvelle. Tu as gagné.
Formidable.
Tu as donc gagné un t-shirt Angevin.
Ah, oh. Alors c'est extraordinaire.
C'est génial.
Mais ça veut dire que sur les 3 questions, il n'y a personne qui a répondu 3.
Je te jure, les autres candidats ont tous fait 1 sur 3. Tu es le seul candidat à avoir fait un sans faute. C'est magnifique. Bravo.
C'est extraordinaire.
C'est
très
extraordinaire.
Bien.
Bon, je te rappelle un petit peu plus tard, hors antenne, pour prendre
ouais,
ta taille.
Là, je vais rentrer en séance, là, hein, donc je ne serai pas disponible avant 16h30.
Oui, mais c'est pas grave, je t'appellerai plus tard.
Ok, ça
marche. Allez, topette.
Salut.
Et voilà les amis, c'est donc bel et bien fini pour cette spéciale de Clic-Clac Topette qui aura duré 30 minutes, contrairement au format habituel de 15 minutes. Un grand merci surtout d'avoir suivi cette première saison radiophonique qui a prouvé que les Angevins aimaient leur histoire. Et c'est avec un immense plaisir que je vous propose de se retrouver la saison prochaine avec une formule rafraîchie et enrichie pour continuer comme toujours de vous partager l'exploration et la découverte de l'histoire en Anjou. Topette !